Et aujourd'hui, le croyant qui croit, qui a donné sa vie à Jésus, la prédication de la croix n'est plus une folie. Amen. Psaume 115, au verset 3, nous dit « Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut ». Nous allons voir ensemble que Dieu est différent. Dieu est plus élevé que les hommes et différent d'eux. Il fait ce qu'il veut. Et à nous, il nous demande de croire, tout simplement. Je voudrais lire avec vous, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 27, la semeur. C'est la meilleure, hein? Premier épître aux Corinthiens, verset 17. Car ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour proclamer l'Évangile. Et cela, sans recourir à la sagesse des beaux discours, afin de ne pas vider de son sens la mort de Christ sur la croix. En effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais, pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu, et là on peut dire Amen. N'est-il pas écrit « Je détruirai la sagesse des sages et je réduirai à néant l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le raisonneur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse du monde? En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui annonce une folie. Verset 27. Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages, et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Par lui, vous êtes unis à Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu, justice, justification et délivrance. Et il en est ainsi pour que soit respecté ce commandement de l'Écriture. Celui qui veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. Amen. Prions, s'il vous plaît. Notre Père céleste, nous voulons te dire merci pour ces moments mis à part pour écouter ta parole. Et nous sommes heureux de l'écouter parce que elle renforce notre foi, elle renforce notre regard sur toi, Seigneur qui est tout pour tous. Et nous voulons encore te dire merci parce que c'est un privilège que tu as donné à tes enfants. Seigneur, tout le monde ce matin n'a pas ce privilège d'écouter ta parole dans la paix et la sérénité. Nous voulons te dire merci, Seigneur, et nous t'invitons à parler à nos cœurs pour que nous restions en règle avec toi, Seigneur, et que ce salut que tu nous as donné au prix fort de ta vie est bien t'honore, mon Dieu. Merci pour ces moments. Quand Christ parut en Israël, le peuple juif attendait un sauveur puissant qui anéantirait les forces d'occupation romaine et qui établirait ensuite son règne sur toute la terre. À la place de tout cela, Christ vint au monde dans une mangeoire pour animaux et mourut sur une croix. Là où le peuple juif attendait un Messie triomphant, c'est le serviteur souffrant annoncé par le prophète Ésaïe qu'il voit arriver. que signifie pour nous ce surprenant revirement pour notre vie, le quotidien et la fin des temps. Concernant la fin des temps, Paul annonce un refroidissement spirituel. Et de nos jours, certains chrétiens qui vont régulièrement à l'église ne croient pas du fond de leur cœur que Dieu les aime. Ils n'arrivent pas à y croire. Dieu leur semble trop loin, trop différent et inapprochable. Pourtant, Dieu a promis de se laisser trouver par ceux qui le cherchent. Mais ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Sinon, Jacques n'aurait pas dit aux chrétiens en souffrance à cette époque-là, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Quelque part, il est écrit dans l'Écriture que Dieu s'est laissé trouver par un peuple qui ne le cherchait pas. Donc, c'est une question de cœur, c'est une question de foi, d'honnêteté, de transparence avec Dieu. Dieu s'est laissé trouver par un peuple qui ne le cherchait pas. Ésaïe 55, au verset 9, nous dit « Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les voies que je vous ai prescrites sont élevées au-dessus de vos voies, et autant mes pensées sont élevées loin au-dessus des vôtres. » Dieu est plus élevé que les hommes. Il est différent. Il est Dieu. Et nul n'est semblable à lui. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi, dira-t-il par la plume d'Ésaïe. Il règne par sa parole sur tout ce qui est, l'ordonnant par son intelligence et le conduisant à la perfection par sa puissance. En clair, ça veut dire que sa parole est efficace par elle-même. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas, nous dit l'Écriture. Genèse 1, au verset 23, en parlant de la création, Dieu dit « Que la lumière soit, et la lumière fut. » Et plus tard, en parlant de la lumière du salut, Jésus dira à ses disciples « Vous êtes la lumière du monde. » Vous êtes la lumière du monde. Alors bien sûr, on ne peut le voir, il est trop lumineux pour nos yeux, Dieu est esprit. On ne peut le toucher, il est trop fin pour nos doigts. On ne peut le mesurer, car il est trop élevé pour nos sens, infini et incommensurable, et connu de lui seul dans toute sa splendeur. Ça veut dire que notre cœur est limité pour le saisir. Il est trop limité pour le saisir. Et oui, c'est un Dieu redoutable, un feu dévorant, un Dieu jaloux. Et ses yeux sont trop purs pour supporter la vue du mal. Et c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Voilà qui est Dieu. Croyons-nous réellement que ce Dieu grand et insaisissable puisse nous aimer ? D'abord, si ce n'était pas le cas, nous ne serions pas là. Et ensuite, la preuve nous est donnée en Jésus-Christ. Et plus précisément, dans le Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Pourquoi est-ce que absolument tout est lié à notre Seigneur crucifié ? Parce que c'est en lui que Dieu se révèle d'une manière tout à fait surprenante. Par rapport au temps de la fin et à la prophétie biblique, nous devrions considérer ceci. Quand Jésus parut dans le monde, les anges de Dieu ont dit que le Seigneur était né. Le Seigneur était né. Le Seigneur, c'est le titre donné à Jésus dans le Nouveau Testament pour exprimer son caractère divin. Et même Thomas, son disciple, qui avait douté de la résurrection de son maître, finit par reconnaître « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus est le Seigneur, il est Dieu. Et c'est là un des grands mystères de la foi chrétienne. Dieu devint homme dans la personne de Jésus-Christ, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. C'est une grande et profonde vérité que notre foi chrétienne dévoile. Première épître à Timothée chapitre 3 verset 16. Parole vivante, il s'est révélé dans un corps humain et accrédité par l'Esprit divin, il est apparu à ses messagers. Dieu s'est révélé lui-même en devenant dans son Fils Jésus-Christ un être de chair et de sang, et sans contredit, je dis bien sans contredit, le mystère de la piété est grand. Alors, ce faisant, il a chamboulé les attentes et les idées que les hommes s'étaient faites de lui. Il faut dire aussi que les prophètes de l'Ancienne Alliance avaient annoncé la venue du Messie et la venue de Dieu. Mais qui pouvait prévoir qu'il allait venir sous cette forme? Et de quelle manière Dieu est-il venu sur cette terre? Nous le rappelons à chaque fête de Noël. Il est venu en passant par le corps d'une juive, une simple femme. Elle était insignifiante. Elle n'était pas de ces familles en vue alors en Israël. Elle n'était pas issue de la noblesse dominante de l'époque, ni des Hérodiens, ni des pharisiens, ni des sadducéens. Son mari était un artisan, pas un scribe ou docteur de la loi. Et Jésus, le Dieu fait homme, comme il n'y avait pas de place dans une chambre normale, le nouveau-né fut placé dans une mangeoire pour animaux. Un endroit pas tout à fait aseptisé, me diriez-vous, et l'odeur n'y était pas des plus agréables. Dieu, le Fils, est venu dans ce monde, dans la pauvreté volontaire, et pour l'être le plus riche de tout l'univers, ça donne à réfléchir. Il a grandi comme fils de charpentier, et pendant 30 ans, on n'a presque pas parlé de lui. Et il a mené une vie simple parmi les gens simples. C'est de cette manière-là que vous aviez imaginé la venue de Dieu sur terre. C'est de cette façon-là que vous l'auriez planifié. Bon nombre de chrétiens ont vite fait de condamner les Juifs parce qu'ils ont refusé Jésus et que beaucoup le refusent encore. Or, remettez-vous dans la situation d'alors. Les prophètes juifs avaient annoncé que Dieu viendrait, qu'il habiterait et régnerait parmi son peuple. Ils avaient parlé de puissance et de gloire, et c'est cela qu'Israël avait entendu et retenu. Or, avec la venue de Jésus, Dieu a fait le contraire de ce que l'on pouvait imaginer pour une venue en puissance et en gloire. Et on voit bien dans les Écritures que dès le début de son ministère public, Jésus a trouvé son plaisir, me semble-t-il, à heurter de front l'élite religieuse d'Israël. Et nous avons tendance à oublier rapidement ces passages de l'Évangile. Mais rappelez-vous en un seul exemple. Quand Jésus entra dans la synagogue de Nazareth, il y lut un passage sur l'apparition du Messie et Sauveur d'Israël, et il déclara ensuite qu'il était l'accomplissement de cette promesse. Et les Juifs s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de Jésus. Et quel fut l'étonnement du Seigneur Jésus? L'étonnement qu'il percevait chez les Juifs ne l'a pas incité à dire de belles paroles dans le but de gagner ses Juifs à sa cause. Pas du tout. Il savait déjà qu'il le rejetterait plus tard. Mais au lieu de cela, il les offensa en disant, « Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé pendant 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre, cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Et Jésus ajouta, il y avait encore plusieurs lépreux du temps d'Élisée le prophète. Cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. La veuve de Sarepta était une païenne, une non-juive. Naaman le Syrien, lui aussi, était un païen, un non-juif. Et là, il est important de préciser qu'aux yeux de l'élite juive, les païens étaient considérés comme le rebut spirituel de l'humanité, parce qu'ils n'appartenaient pas à Dieu, ils n'étaient rien. Et que Christ, en s'adressant à son peuple, leur jetait à la figure que déjà autrefois, Dieu avait préféré de s'occuper de deux païens méprisés plutôt que des nombreuses veuves et lépreux d'Israël. C'était des paroles très dures. Pas étonnant que les Juifs aient voulu lapider le Seigneur Jésus. Et en entendant ces paroles, tous ceux qui étaient dans la synagogue se mirent en colère. C'est écrit noir sur blanc. Jésus choisit en tout et pour tout 12 simples Israélites pour être ses disciples. Aucun d'eux ne venait de l'élite religieuse d'Israël. La plupart étaient des pêcheurs de poissons de métier qui avaient du mal à comprendre les choses spirituelles. À un moment donné, Jésus dira « Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à comprendre tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît, etc. » Et parmi eux, deux frères explosifs, que l'on surnommait les fils du tonnerre, Jacques et Jean, et puis Jésus, au verbe toujours prompt et haut. Et il y avait encore un collecteur d'impôts, Matthieu, connu pour ses tromperies, haï et méprisé de tout le peuple, mais ce n'est pas tout. Jésus mangeait avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs, chez ceux que l'élite religieuse méprisait. Les pieux prédicateurs, je dirais les prédicateurs vedettes et les super théologiens de son temps, Jésus les appelait race de vipères et sépulcre blanchi. Quand Dieu s'est fait homme dans la personne de Jésus-Christ, il a chamboulé toutes les idées que l'on se faisait de la puissance et de la gloire. Notre Seigneur a montré sa gloire et sa souveraineté en laissant de côté ceux qui se croyaient bons et qui se vantaient être en bonne santé spirituelle pour aller vers ceux qui étaient méprisés, qui avaient le cœur brisé et qui aspiraient à la guérison. Ce Dieu qui s'est fait homme, qui s'est occupé délibérément des méprisés, des pauvres, des affligés en Israël, s'est laissé arrêter, accuser, dénigré, torturé et cloué sur la croix du Golgotha. Ça veut dire que la manifestation de Dieu en Jésus a débouché sur une mort atroce, sur une croix, hors des murs de Jérusalem, dans la honte et l'humiliation. Et c'est là que nous apprenons à connaître Dieu. Voulez-vous savoir qui est Dieu? Voulez-vous savoir si Dieu vous aime? Allez à la crèche et allez à la croix. C'est là que nous connaissons qui est réellement Dieu. Le Seigneur s'est lui-même abaissé et il est venu chez nous dans la boue. Et il a accompli la prophétie de l'Ancienne Alliance d'une manière tout à fait surprenante. Il a amené le temps de la fin d'une façon inattendue. Et nous pourrions poser la question. Qu'est-ce que cela a à voir avec nous? Que Dieu se soit abaissé, c'est bien beau, mais qu'est-ce que cela nous rapporte? C'est un bel exemple. Oui, c'est tout. Eh bien, non. Eh bien, non. Cela va plus loin, parce que pour nous, êtres humains, c'est une question de vie ou de mort, une question de malédiction ou de bénédiction, d'enfer ou du ciel. Quelque chose s'est passé à la croix. Quelque chose qui signifie réellement une bonne nouvelle pour les pauvres spirituels, une délivrance pour les captifs, la lumière pour les aveugles, la liberté pour les affligés. Christ, la mort de Jésus, n'est pas une mort accidentelle. Sa mort n'était pas une erreur dans le plan de Dieu, pas du tout. C'était son but. Il voulait mourir pour nous afin de prendre sur lui nos péchés. Et ça signifie que Dieu a fait alliance avec les humains en Jésus-Christ afin de prendre lui-même nos péchés et la dette que nous avons envers lui. Mais voilà, il n'est pas resté mort. Tout le Nouveau Testament crie haut et fort qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et son corps supplicié a été réveillé à une vie nouvelle. Jésus. Sur la croix, n'oublions jamais que son corps supplicié, il a payé cher notre vie. Ça, ne l'oublions jamais. C'est ainsi que, sur la croix, Jésus a vaincu le péché, l'enfer, la mort et le diable. En se référant à cette croix, Jésus avait dit « L'heure vient où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Et en évoquant la terrible tragédie de la croix, Jésus parle de glorification. Ce crime effroyable, il en parle comme de sa glorification. Ça signifie que la crucifixion du Fils de Dieu est la glorification du Fils de Dieu. À un moment donné, dans l'Évangile, on entend cette voix venant du ciel, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Comment est-ce possible? Comment une chose si terrible peut-elle être glorieuse? C'est cela de nouveau la théologie de la croix. Dieu s'est lui-même rabaissé et il a chamboulé toutes les idées que l'homme se fait de sa puissance et de sa gloire. Sur la croix, il prouve sa puissance et sa gloire en cette heure qui est la plus sombre qui soit, dans les douleurs et les souffrances les plus fortes. Ésaïe nous le rappelle, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, nous l'avons considéré comme frappé par Dieu, puni et humilié. Vous savez, ce serait chose facile pour Dieu d'anéantir et de broyer les pécheurs que nous sommes. Mais où se trouve-t-il un Dieu qui, devenu homme, meurt pour des pécheurs? C'est cela la véritable puissance. C'est cela la véritable gloire. Quand Christ a souffert et quand il est mort, il s'est passé quelque chose d'incompréhensible. Certes, il a pris nos péchés sur lui, mais ce n'est pas tout. Jésus-Christ a été, et il est le seul être humain, ayant vécu sur cette terre dans une justice parfaite, et sans connaître le péché. Il ne s'est pas laissé séduire par le diable, ni par les hommes ou le péché. Il a toujours fait ce qui est juste. Amen. Il a toujours fait ce qui est juste. Et pour nous aujourd'hui, il y a ceci d'important à retenir. À la croix s'opère un échange. Christ nous donne sa justice, et il prend sur lui nos péchés et les enlève au moyen de sa mort sacrificielle à la croix. 2 Corinthiens 5, verset 21. Ça veut dire que rien ni personne ne peut plus condamner le pécheur croyant parce que Dieu qui est parfait a fait alliance avec nous les humains dans le duomo parfait, Jésus-Christ. Et la clé qui ouvre ce trésor de perfection, c'est notre foi. C'est ainsi que le drame de la croix devient la gloire de Dieu. Le diable n'a plus de carte en main pour nous accuser, et ce qui fait ressortir clairement que l'apparente défaite de Dieu, humainement parlant, fut son triomphe total. Et c'est de cette manière que Dieu a prouvé sa puissance et sa gloire à travers le drame de la croix. Amen. La croix, paradoxalement, est le chemin de la gloire. S'adressant à son Père, à propos des disciples, Jésus dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée ». Quand Jésus était sur la terre des hommes, il guérissait beaucoup de malades, chassait énormément de démons, ressuscitait même des morts, mais la priorité, c'était le pardon des péchés. Il n'y a rien de plus beau, ni de plus grand, que de pouvoir paraître sans péché devant le Dieu très saint. Et cela est désormais possible par la foi en Jésus-Christ. Un jour, par exemple, on a amené un paralysé à Jésus, et avant de le guérir, le Seigneur lui a pardonné ses péchés. C'était ce qui avait le plus important pour le Seigneur Jésus. Et puis, comme signe visible du pardon des péchés, Jésus a guéri le paralysé. Et cet homme, entièrement rétabli, est reparti sur ses jambes. Nous avons lu tout à l'heure, Ésaïe 55 au verset 9, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, c'est Dieu qui parle, autant les voies que je vous ai prescrites sont élevées au-dessus de vos voies, autant mes pensées sont élevées au-dessus, loin des vôtres. Savez-vous dans quel contexte Dieu a réellement tenu ses propos? C'est en parlant de son immense miséricorde et de son pardon. Dieu est différent. En Ésaïe 44, chapitre 44, 45 et 46, Dieu n'arrête pas de souligner qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui, et il affirme que lui est le Sauveur. Et suivi de l'invitation, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. Et tu me glorifieras. Même si la Bible fait ressortir clairement que ceux qui refusent le Dieu vivant dans leur vie connaîtront la perdition, la longue patience de Dieu jusqu'à aujourd'hui montre qu'il est différent des hommes. Il veut sauver et non pas condamner. Il veut exercer la miséricorde et pas le jugement. Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il abandonne la voie de la méchanceté, qu'il change d'attitude, de comportement, bibliquement parlant, qu'il se repente. Au début de son ministère public, Jésus a prêché la repentance. Repentez-vous, sinon vous mourrez dans vos péchés. Les premiers chrétiens ont fait la même chose. Repentez-vous et vous connaîtrez des temps de rafraîchissement. Amen. Je finis. Nous ne devrions pas nous étonner de voir arriver encore certaines surprises en ces temps de la fin. Si Dieu a surpris ce qu'il attendait à l'époque de Jésus, nous ne devrions pas nous étonner qu'il nous surprenne à notre tour, d'autant que nous sommes des gens avertis. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Nous sommes dans la fin des temps. Et Dieu t'a parlé ce matin. Et Dieu te parle encore ce matin. N'endurcis pas ton cœur. Parce que la grâce, c'est maintenant. Un jour, elle va être enlevée. Le salut, c'est maintenant. C'est aujourd'hui et pas demain. Si tu as entendu la voix de Dieu ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Paul a averti l'assemblée de Corinthe pour leur faire comprendre que Dieu est différent. Dieu fait ce qu'il veut. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui fait la différence. Et il leur dit, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses les plus faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Il leur dit ça, mais auparavant, il leur avait dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui se perdent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu, la puissance même de Dieu. Parce qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. L'apôtre ira même jusqu'à ajouter, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance même de Dieu. Si pour quelques-uns ce matin, le message de la croix, la prédication de la croix est une folie, fais attention. Fais attention, arrête-toi et réfléchis. Examine-toi, parce que tu n'es pas sur le bon chemin. Si tu persistes dans cette voie, tu es en train de te perdre. Réfléchis. Si pour le plus grand nombre d'entre nous, la prédication de la croix est une puissance de Dieu, alors on est au bon endroit. On est sur le bon chemin. Le salut est pour nous. Vous savez, Jésus est venu d'une manière inattendue, et cette venue surprenante en annonce une autre que tous verront. Le Fils de l'homme viendra dans sa gloire pour le jugement final. Mais en attendant, les disciples que nous sommes sont appelés à la foi et à la persévérance. Pourquoi ? Celui qui croira jusqu'à la fin et qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Tout ça parce que la mort et l'enfer sont écrasés aux pieds du roi des rois. Jésus est le Seigneur, le vainqueur à tout jamais. À lui gloire, majesté, puissance, honneur et louange. Que Dieu soit béni. Si ce matin, parmi nous, il y avait une ou deux personnes qui veulent se donner à Jésus, Dieu t'a parlé ce matin, et c'est personnel. Dieu t'a montré ce que tu es, c'est perso. Si ce matin, quelqu'un veut donner son cœur à Jésus, c'est le moment de le faire, n'attends pas. Sinon, il y en a un qui va venir, il va te balancer des pots de bananes et des concombres, et tu ne pourras plus t'approcher de Jésus, parce que ton cœur, tu lui auras donné le temps de t'endurcir. Aujourd'hui, pour toi, c'est le moment du salut. C'est un moment de grâce. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il veut te sauver aujourd'hui. Si tu ressens dans ton cœur que tu ne l'es pas, lève ta main, je veux prier pour toi. Et rendre grâce au Seigneur. Parce que c'est son plan de salut. Jésus est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour guérir. Ça, c'est en plus la guérison. Mais Jésus est venu sauver. Pour le pardon de tes péchés. Et c'est tout. Ce qu'il te demande simplement, c'est de croire à son évangile. C'est de croire à son sacrifice unique et parfait qu'il a accompli sur la croix. C'est tout. Après le reste, c'est Dieu qui s'en charge. Mais Dieu demande ton accord. Il demande que tu ouvres ta porte. Et si ce matin, au milieu de nous, il y a quelqu'un qui veut donner son cœur à Jésus, ne te gêne pas. Ici, on est en famille. Et tu vas voir que Dieu va faire le reste dans ta vie. Et c'est là un changement qui se produit. En plus de sauver, Dieu change nos cœurs. Dieu change nos tempéraments. Notre haine, Dieu la transforme en amour. Il le fait, ça. Et j'en oublie. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces moments. Seigneur, à toi l'honneur, à toi le respect, à toi la louange, parce que ta parole, elle est la vérité. Et tu la donnes à celui qui croit, à celui qui vient vers toi sincèrement, avec la transparence de son cœur. Nous te bénissons, Seigneur, parce que ce que toi tu fais, nous ne nous pouvons pas le faire. Et ce que nous ne pouvons pas faire, toi tu le fais, Seigneur, parce que rien n'est une barrière pour toi. Nous te louons, Seigneur, pour ton message, pour ton salut, pour ton pardon, Et nous te remercions d'être venu vivre dans notre cœur, dans notre vie. Et c'est toi qui conduis l'Église. Seigneur, sois béni pour ces moments. Et nous te donnons gloire. Amen. Amen. Amen.